Bonjour, chers auditeurs de Radio Grand Ciel. Nous sommes dans notre émission consacrée à l'art, l'histoire, l'iconographie chrétienne. Nous avons eu le plaisir plusieurs fois d'écouter notre invitée d'aujourd'hui, Diane Elisabeth Avaux, qui est historienne et spécialiste des cours de l'Europe, mais aussi grande spécialiste des relations franco-russes. Donc c'est pour nous un très grand plaisir de l'avoir avec nous dans le studio, car elle va nous parler aujourd'hui, comme dans notre dernière émission, des cours allemands du XVIIIe siècle, et elle va approfondir cette fois-ci les cours ecclésiastiques de l'Allemagne. Elle va nous parler sans doute de la cour de l'évêque électeur de Mayence et d'autres cours des électeurs évêques de Trèves et de Cologne. Et elle va illustrer son discours par des pièces musicales. Et c'est comme ça, chère Diane Elisabeth Avaux, que vous faites dans vos cours que vous assurez dans l'école de Chartres pour les arts, école ouverte à tous les publics, organisée par le Centre international de Vitrail à Chartres, que les Chartrains connaissent très bien. Et vous êtes issue d'une famille de musiciens, d'ailleurs, donc vous êtes une grande spécialiste aussi de la musique de cette époque-là. Alors, peut-être pouvons-nous commencer tout de suite par les cours ecclésiastiques. Et il ne serait peut-être pas inutile de rappeler aux auditeurs quelle est la particularité de ces cours dans une Allemagne qui est composée d'une multitude de petits États.
Oui, bonjour, merci beaucoup de me recevoir. Donc effectivement, l'Allemagne du XVIIIe siècle n'est pas encore unifiée, elle comporte plus de 300 cours souveraines, et certaines de ces cours ne sont pas réunies autour d'un prince laïque, mais autour d'un prince évêque ou archevêque, et éventuellement un prince électeur, puisque l'Allemagne du XVIIIe siècle, ainsi que la Bohême, réunissent un collège électoral de princes hauts dignitaires qui ont le devoir de se réunir après la mort de l'empereur du Saint-Empire romain germanique pour élire son successeur. Alors, ces princes-évêques sont issus des plus grandes familles de l'aristocratie allemande. Leur carrière dans l'Église s'impose par leur naissance, comme d'autres sont destinés à la carrière militaire. Et c'est un moyen aussi pour les familles d'accroître toujours son prestige et sa fortune. Le principe d'une cour ecclésiastique est donc le même que dans les cours laïques. Il s'agit de réunir autour du prince détenteur du pouvoir des fidèles issus de toutes les classes de la société selon une hiérarchie très définie qui va des ministres aux domestiques. Donc la qualité d'homme d'église de ces princes évêques, bien sûr, ne les autorise pas à autant de liberté dans les divertissements que dans les cours tout à fait profanes. On ne connaît pas de maîtresse dans ces cours ecclésiastiques et les opéras sont moins représentés, on favorise l'oratorio, bien sûr. Par conséquent, l'ennui est plus grand dans ces cours ecclésiastiques et pour y pallier, les plaisirs entre guillemets anodins vont être exagérés. Et en Allemagne, il s'agit principalement de la chasse qui donne l'occasion d'un exercice physique utile, mais aussi de la boisson dont la consommation est soumise à des rites compliqués, hiérarchisés. Le luxe suprême pour les courtisans de ces cours ecclésiastiques ou les invités de marque, le luxe suprême étant d'être autorisé à boire dans un vase d'or massif.
Alors nous venons d'apprendre que des évêques pouvaient donc être aussi des princes. Vous nous aviez rappelé dans notre dernière émission consacrée justement à ces cours allemands du XVIIIe siècle que ces princes électeurs étaient donc l'archevêque de Mayence, l'archevêque de Trèves, l'archevêque de Cologne, le roi de Bohême. Lui sera catholique, ce qui ne sera pas forcément le cas de d'autres princes électeurs, le comte palatin du Rhin et le duc de Saxe, ou électeur de Saxe, et le margrave de Brandebourg. Et on sait que le Brandebourg va basculer très vite dans le protestantisme, parce que ces régions avaient été christianisées plus tardivement que le reste de l'Allemagne, et finalement la religion catholique va s'enraciner sans doute pour cette raison moins fortement. Alors, parmi les princes évêques, 300 donc électeurs de l'empereur du Saint-Empire et ceux qui ne le sont pas, est-ce qu'ils peuvent aussi se démarquer par un certain faste? Est-ce qu'ils en ont les ressources?
Alors oui, il n'y a pas que les princes électeurs qui vont être dont la cour va être particulièrement brillante. D'ailleurs, les charges de ces trois archevêques électeurs sont prestigieuse évidemment sur le papier, mais très inégale, les revenus de ces archevêchés étant tout à fait différents. Donc on peut rappeler que c'est l'empereur Charles IV de Luxembourg au XIVe siècle qui avait désigné ce collège électoral, donc en 1356, par la bulle d'or, et on peut ajouter qu'à la fin du XVIIe siècle, un huitième prince électeur est ajouté au collège électoral, il s'agit du duc de Hanovre. Donc, pour les princes et les princes-évêques qui ne sont pas électeurs, justement, il faut citer particulièrement le siège épiscopal de Spire, qui au XVIIIe siècle est particulièrement brillant. C'est le moment pour l'évêque de Spire de la construction du somptueux château de Broursal. Mais surtout, on ne peut manquer de citer la plus extraordinaire des cours du XVIIIe siècle, qui est la cour ecclésiastique, la cour de l'évêque de Würzburg, dont le palais est extrêmement connu, un vrai Versailles que nombre de touristes allemands ou étrangers vont visiter, et dont la cave était particulièrement réputée, les vins étant appartenant à l'excellence de cette cour de Würzburg.
Lié au nom de Johann Balthasar Neumann, qui effectivement est un artiste à nommer parce qu'il est très connu pour les splendeurs de Würzburg, mais qui a souffert un peu aussi pendant la guerre. Alors les souverains qui vont assurer la régence sont de la maison de Schönborn, en Franconie et en Rhénanie, sont donc des familles qui héritent un peu de ces postes clés, et il fallait qu'ils avaient plusieurs quartiers de noblesse, je crois, pour la famille Schönborn, ils avaient 16 quartiers de noblesse.
Alors, les quartiers de noblesse concernent particulièrement la cour de Cologne, qui était la plus prestigieuse des trois cours des princes-évêques, puisque l'évêché de Trèves était le plus ancien, mais le moins riche, et que l'évêché de Cologne, en revanche, était extrêmement fastueux, et que la maison du prince-évêque de Cologne s'en ressentait jusque dans la qualité des courtisans qui la composaient.
On va effectivement plonger tout à l'heure plus en détail dans la cour du prince-évêque de Mayence. Mayence ayant été un diocèse de très grande dimension, de très grande importance. Et j'invite toutes les personnes qui nous écoutent de faire peut-être à l'occasion d'un voyage en Allemagne une visite dans la cathédrale de Mayence. On voit encore tous les tombeaux de ces évêques légisants, encore en polychromie. C'est absolument fabuleux de plonger dans cette époque-là. Le sol est pratiquement tapissé avec ses gisants, donc il faut faire très attention en marche. Certains ont été apposés au mur. Alors, le chef de la dynastie en Franconie, c'était Franz Lothar von Schönborn, dont vous allez nous parler peut-être à un autre moment, qui était prince et archevêque de Mayence, dont on va donc parler. Mais je crois que vous vouliez nous présenter, pour illustrer votre propos aujourd'hui, par une pièce musicale qui rentre bien dans le cadre. Est-ce que vous voulez dire quelques mots justement concernant la pièce que nous allons pouvoir écouter?
Alors, il s'agit pour toute l'émission de trois extraits de La Passion selon saint Matthieu de Telemann. Telemann étant une figure éminente de la musique allemande du XVIIIe siècle, quelqu'un qui a beaucoup voyagé de cours en cours dans le nord de l'Allemagne, pardon, non pas en Rhénanie, mais plutôt dans le nord de l'Allemagne. Et donc la musique de Telemann s'intègre tout à fait au sujet, puisque comme son grand contemporain Bach, elle est vraiment le reflet de cette vivacité musicale que la nation allemande a su porter si haut et dont l'on se souvient aujourd'hui.
Durch Christ und unser Herr.
Chère Diane Elisabeth Aveau, vous êtes avec nous dans le studio de Radio Grand Ciel. Les Chartrains vous connaissent très bien, les étudiants de l'école de Chartres pour les arts vous connaissent également parce que vous êtes historienne spécialiste des cours européennes et spécialiste des relations franco-russes. Vous nous parlez aujourd'hui des cours ecclésiastiques de l'Allemagne du XVIIIe siècle, des cours à la tête desquels se trouvent donc des princes qui peuvent être aussi des évêques et qui sont à leur tour aussi donc des évêques électeurs qui, selon la bulle d'or de Charles IV, étaient donc responsables des affaires dans l'État d'Allemagne composé d'une multitude de petits États. Ces cours dont vous nous avez parlé jusqu'à présent développent un certain faste, moins que dans des cours laïques, parce que nous sommes donc dans un cadre ecclésiastique. Vous l'avez rappelé qu'on ne pouvait pas exécuter certaines pièces comme des opéras un peu légères, donc on va se replier sur l'oratorio. L'oratorio créé après le Concile de Trente par les oratoriens, justement, pour remplacer les opéras laïques. Vous voulez nous parler maintenant de la cour du prince-évêque de Mayence. On a eu l'occasion de dire que le diocèse de Mayence était très important, parmi aussi des diocèses plus riches par rapport à Trèves. Alors, pourquoi l'archevêque de Mayence est le plus important, finalement, de tous ces princes électeurs?
Alors, l'archevêque de Mayence est donc le hiérarchiquement le plus haut placé de tous ces princes électeurs laïcs ou ecclésiastiques du Saint-Empire romain germanique. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est chargé, après la mort de l'empereur, de convoquer les autres princes électeurs, toujours à Francfort-sur-le-Main, et que c'est lui qui, le nouvel empereur désigné, doit le sacrer et loindre. Donc, l'archevêque de Mayence, d'un point de vue protocolaire, a toujours la prééminence, et c'est lui aussi qui va décider d'une délibération un peu difficile après le vote, qui doit se faire donc à la majorité absolue, c'est-à-dire 4 voix, pour un même candidat au trône impérial. Donc, dès qu'il y a litige, c'est lui qui tranche la question. Son pouvoir est donc extrême, puisque les coteries qui peuvent s'opposer dans le cadre d'une élection à prévoir peuvent être tentées de le contacter, d'en faire un ami, un proche, afin de faire pencher la balance en faveur de leur camp, bien sûr.
Alors, parmi tous ces princes évêques, vous voulez peut-être plus particulièrement nous parler aujourd'hui de Lothar Franz von Schönborn, Lothar François de Schönborn, évêque électeur de Mayence, qui était aussi un fervent admirateur de Louis XIV, comme ses collègues, oserais-je utiliser ce mot, comme ses collègues laïcs. Donc lui aussi, il va viser à imiter le modèle Louis XIVien.
Voilà, on avait expliqué dans la précédente émission, effectivement, que ces cours allemandes étant assez petites, elles ont besoin de s'imposer, de s'offrir une légitimité que le modèle de Louis XIV leur offre parfaitement, puisqu'il a fonctionné, ainsi que vous savez, tant dans le domaine artistique que dans le domaine politique ou dans le domaine culturel, la France de Louis XIV étant, c'est encore sensible aujourd'hui, un modèle de raffinement, de savoir-vivre et de savoir-faire, largement véhiculé justement par ces cours allemandes. Et Lothar François de Schönborn, donc évêque électeur de Mayence, s'inscrit parfaitement dans cette lignée des admirateurs français. Il fait construire une nouvelle résidence, comme beaucoup de ces princes qui veulent chacun leur Versailles pour jouer également à Louis XIV. Et cette résidence d'été est également très connue. Avec le sujet des cours allemandes du XVIIIe siècle, ce qui est très agréable, c'est qu'on fait un vrai tour d'Allemagne et un vrai tour des châteaux d'Allemagne, que l'on n'a qu'une envie, c'est de se mettre en route pour cheminer de l'un à l'autre. Et c'est un vrai parcours baroque qui nous est proposé avec ce sujet. Donc le château que Lothaire François de Schönborn fait édifier est le château de Weißenstein à Pommersfelden. Et c'est un château, un vrai palais extrêmement imposant, dont le jardin est remarquable par une grotte qui est agrémentée de fontaines, de statues, et qui est un lieu très fréquenté par les courtisans. Les courtisans qui donc s'adonnent souvent à la chasse dans les cours ecclésiastiques, qui sont donc habitués au plein air. La cour de Mayence, d'ailleurs, affectionnait tout particulièrement les défilés militaires, là encore « plaisir » entre guillemets autorisé, anodin, pour des cours ecclésiastiques, bien que toute n'ait pas disposé d'une armée très forte. Nous verrons tout à l'heure que l'électeur de Cologne, malgré tout son prestige, avait une armée bien moindre que celle de l'évêque de Mayence. Donc ce jardin de Pommersfelden s'inscrit dans cette vie de la cour ecclésiastique de Mayence qui, l'été, aime également se rendre régulièrement aux eaux proches de Wiesbaden ou de Schwalbach, bien que cette dernière ville se situe dans un land voisin chez le landgrave de Hesse-Rheinfeld.
Alors on voit que ce sont des princes qui sont comme les papes à d'autres époques, de grands bâtisseurs. Ils font venir des architectes de France, ou est-ce qu'ils trouvent aussi des architectes en Allemagne, ou est-ce qu'effectivement on avait l'habitude de s'adresser à la France pour non seulement imiter le modèle français, mais parce qu'aussi effectivement les meilleurs architectes à l'époque venaient sans doute de ce pays-là?
Alors, est-ce que les meilleurs architectes venaient de France? Ce n'est pas absolument certain. En tout cas, puisque ces princes voulaient imiter le Versailles de Louis XIV, il était de bon ton d'avoir un architecte qui a été formé au contact de l'école française, du Versailles, de Levaux, puis surtout d'Ardoin Mansart. Et effectivement, beaucoup de ces princes font appel à des architectes français, mais pas seulement. On trouve beaucoup de noms allemand parmi ses architectes, comme Balthasar Neumann, qui a construit, nous l'avons dit tout à l'heure, le très célèbre palais de Würzburg. Lothaire François, lui, fait bien appel à un architecte français extrêmement connu, Germain Beaufranc, pour construire un petit château à l'imitation de Marly, donc non loin de Pommersfelden, qui lui est dû pour le coup à un architecte allemand. Et Germain Beaufranc donne les plans d'un château aujourd'hui disparu, dit le château de la Favorite, car c'était un lieu favori parmi ceux où résidait la cour de Mayence. Et Beaufranc va comprendre cette volonté des princes allemands d'imiter la France en proposant un modèle inspiré de Marly et plus encore du premier Trianon de Louis XIV, celui qui a disparu très vite, qui était le Trianon de porcelaine, et qui a disparu pour la construction de l'actuel Trianon de marbre, puisque Germain Beaufranc propose pour ce petit château de la Favorite un salon de porcelaine, qui est donc une référence directe à ce Trianon de porcelaine que Louis XIV avait offert à ses courtisans dans le parc de Versailles, sur ce qui était encore le village de Trianon.
Alors je pense que nous pouvons faire une petite pause. Qu'est-ce que vous nous proposez ?
Donc toujours Télémane, avec donc un autre extrait de la Passion qui nous rappelle que nous sommes dans un contexte ecclésiastique et il s'agit d'un choral de la Passion selon saint Matthieu.
Thank you.
Nous continuons notre émission sur les princes évêques en Allemagne au XVIIIe siècle. Et notre invitée d'aujourd'hui, Diane Elisabeth Avo, vient de nous parler de Lothar Franz von Schönborn, qui était prince évêque à Mayence. Et je pense que nous pouvons maintenant parler de la cour des princes évêques de Trèves et de Cologne. Et vous nous aviez rappelé donc cette particularité des princes électeurs dans le pays d'Allemagne. Alors, que dire donc des archevêchés de Trèves et de Cologne ? Mayence est très important, vous l'avez rappelé, parce que l'évêque va oindre et sacre le roi et l'empereur. Et pour Trèves, diocèse un peu plus pauvre, qu'est-ce qu'on peut dire de Trèves ? Ville très ancienne, puisqu'on trouve aujourd'hui encore d'énormes vestiges de l'époque romaine.
Voilà, puisque Trèves a été capitale de l'Empire romain d'Occident, donc à partir du 3e siècle après Jésus-Christ. Et Trèves est prestigieuse en ce sens où c'est la ville du plus ancien évêché d'Allemagne, créée très tôt, en 314, c'est-à-dire juste un an après l'édit de Constantin. Donc la charge d'archevêque de Trèves est prestigieuse à ce titre, bien par son ancienneté, bien que les revenus de cet archevêché soient médiocres, ce qui oblige la cour de Trèves à des dépenses plus modérées qu'ailleurs et qui réduit la maison de l'évêque à un nombre restreint de personnes. Là encore, on retrouve la famille Schönborn, qui a donné à l'Allemagne beaucoup de dignitaires de l'Église, dont Lothaire François dont nous avons parlé pour Mayence, mais aussi plusieurs Schönborn qui ont été évêques de Trèves au XVIIe et XVIIIe siècle. En revanche, la cour de Cologne, qui est donc la troisième cour des princes évêques électeurs après Mayence et Trèves, est très riche et la maison de l'électeur de Cologne par conséquent très nombreuse. On a dit déjà tout à l'heure que dans cette cour, il fallait justifier de 16 quartiers de noblesse pour être chanoine. Il faut rappeler également que Cologne est depuis le Moyen-Âge un centre très brillant de la vie religieuse, de la vie intellectuelle. L'université de Cologne a été fondée en 1388, mais aussi un centre brillant artistique, à tel point que l'on peut appeler cette ville de Cologne la Rome du Nord, et ce qui fait de son évêché l'évêché d'Allemagne le plus recherché.
Alors peut-être peut-on sortir de notre cadre historique pour dire à nos auditeurs qu'il est arrivé un grand malheur à la ville de Cologne, puisque lors de la construction du métro, il y a quelques semaines, les archives se sont écroulées. Ce qui veut dire que 1000 ans de documents, de bulles papales, de documents extraordinaire pour la connaissance de 1000 ans d'histoire de la chrétienté, ont été ensevelis sous des tonnes et des tonnes de béton. On a très peu parlé en France de ce grand malheur qui nous concerne tous, parce que c'est la connaissance de la vie dans cette partie de l'Europe. Donc, ville de Cologne très importante, où effectivement tout a flué. Quels sont donc les lieux de vie de ces cours dont nous parlons aujourd'hui ? Est-ce que les Français ont une part à cette vie ? Rappelons que les Huguenots ont dû émigrer après la révocation de l'édit de Nantes en 1685.
Mais plutôt dans les régions du nord de l'Allemagne, voilà. plus protestantes, oui. puisque là, nous sommes dans un cadre.
Alors, est-ce qu'on retrouve des Waldenser, des Vaudois aussi dans le sud de l'Allemagne ? Donc, les Français, est-ce qu'ils ont une part à cette vie de cour ? Et donc, quels sont ces lieux de vie de cour ?
Alors, dans le domaine artistique, oui, bien sûr, on va retrouver justement les Français. On peut dire que donc le palais épiscopal de Trèves, donc lieu de résidence de la cour de Trèves, est un château encore relativement récent, du XVIIe siècle, bien qu'il ait été bâti dans le style Renaissance, agrandi au milieu du XVIIIe siècle, d'une aile rococo aux façades roses tendres, par l'évêque électeur qui s'appelait Johann Philipp von Walderdorf. Une façade, donc une aile nouvelle, particulièrement remarquable par son grand escalier, virtuose, un des plus beaux du genre, puisque bien sûr ce tour d'Allemagne des châteaux baroques au XVIIIe siècle s'accompagne d'un tour des plus grands escaliers de la scénographie baroque, lieu de parade par excellence qui appartenait évidemment au faste recherché par ses cours. Et on se souvient, avec le modèle de Louis XIV, de l'escalier des ambassadeurs. Donc l'escalier est un lieu central pour la vie de la cour, quelle qu'elle soit, surtout lorsqu'elle a vocation à augmenter son crédit et son pouvoir. Donc justement, cette aile nouvelle du palais épiscopal de Trèves offre un très bel exemple d'escalier baroque. Il s'agit d'un architecte allemand, pour le coup, bien qu'un autre architecte français soit convoqué pour construire un peu plus tard, dans les années 1760, un autre petit château, dans l'esprit, encore une fois, des satellites de Versailles. On pense tout de suite à Trianon ou à Marly, le château de Vitelay. En revanche, la cour de Cologne va délaisser quelque peu Cologne, bien qu'elle soit alors la plus grande ville d'Allemagne, la plus peuplée, une ville donc extrêmement riche, comme nous l'avons dit, pour se concentrer à Bonn, où est construite une nouvelle résidence épiscopale d'été, depuis 1808 d'ailleurs, Université de Bonn, dont les locaux sont toujours visibles. Bonn qui, en ce début du XVIIIe siècle, grandit et s'embellit très rapidement, plus d'ailleurs que sa voisine Cologne. Les lecteurs donnent dans la nouvelle résidence d'été de Bonn de grandes réceptions, tandis que l'architecte français Robert de Cotte, qui ne s'est pas rendu à Cologne ou Bonn, mais qui depuis Paris envoie des plans pour de nouveaux châteaux, permet la construction de plusieurs nouveaux bâtiments. Donc cette résidence estivale de Bonn, mais aussi le château de Poppelsdorf qui existe toujours, construit donc par des Allemands sur les plans et les conseils de Robert de Cotte, également consulté pour une autre propriété très, très célèbre, le château de Brühl. Pourtant ce dernier, autre lieu de vie de la très riche cour de Cologne, n'a pas été édifié sur les plans de Cotte, mais sur ceux d'un architecte allemand. Pourtant, très vite, l'évêque, insatisfait de ce travail, va demander l'assistance d'un autre architecte français, preuve que cette nécessité d'architecte français est quand même très forte dans de nombreux cas. Il s'agit d'un architecte bien connu, puisque c'est l'architecte officiel de la cour de Bavière, du duc de Wittelsbach à Munich, donc l'architecte François de Cuvilliers, qui est donc dépêché par le duc de Bavière lui-même pour venir secourir la construction de ce château de Brühl, où un autre artiste français, décorateur cette fois, Gilles-Marie Oppenor, travaille également.
Donc nous pouvons imaginer que tous ces artistes ont travaillé aussi pour l'ornementation des églises baroques qui se développent à cette époque-là. Nous sommes arrivés presque à la fin de l'émission. On aurait pu effectivement encore parler de l'art baroque. Mais nous nous contentons aujourd'hui de ce petit brin, de ce petit regard sur une partie du XVIIIe siècle, les cours allemandes, les princes évêques de Trèves, de Cologne et de Mayence. Merci beaucoup, Diane Elisabeth Avo, de nous avoir ouvert cette fenêtre vers un pan du XVIIIe siècle. On vous dit au revoir, chers auditeurs de Radio Grand Ciel, avec une pièce de Telemann.
Toujours.
Toujours.
Donc, un cœur de la Passion selon saint Matthieu, et en vous encourageant, bien sûr, si possible, à aller en Allemagne visiter ces somptueux palais, témoins donc de cette importance de la France au XVIIIe siècle. Au revoir.